Salut à tous, B-boy, B-girl, les amateurs de salles obscures, ceux qui adorent chiller sous un plaid en pilou-pilou, ou encore les découvreurs de films, les dévoreurs de séries, bienvenue dans Plan Séquence.
Écoutez, faites très attention.
Plan Séquence, 98.7, 95.2, Radio Ondine.
Et un spectacle continue.
Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
Vous êtes bien sur Radio Ondine 98.7 et 95.2 et aujourd'hui, je vous ai préparé une émission chargée comme une salle IMAX le jour de la sortie d'Avatar. Au menu, des sorties ciné qui vont vous donner envie de squatter les fauteuils des salles obscures, un détour dans la cinémathèque pour parler d'un film qui a changé la face de la SF, le banger de la semaine, une série qui mérite qu'on s'y attarde et un dossier spécial sur les films qui ont révolutionné la science-fiction. Mais attendez, c'est pas tout, restez calme. Je vous fais gagner aujourd'hui des places de ciné grâce à notre partenaire, le cinéma Le Celtic de Saint-Malgrand. Pour tenter votre chance, restez à l'écoute. Je vous poserai une question à la fin de l'émission et faudra aller répondre sur nos réseaux sociaux. Et pour les amateurs de voyage et de docu, on fera une aparté spéciale pour un event qui vaut le coup. Alors installez-vous bien, moteur et action.
Les sorties du mercredi.
Sur Radio Ondine 98.7, 95.2.
Comme chaque semaine, voici les films à découvrir dès ce mercredi 19 mars dans vos salles préférées, comme le Celtic de Saint-Main par exemple, et franchement cette semaine c'est du lourd. Aujourd'hui pour notre premier film, je vous parle de La Cache, l'un des deux derniers films avec le très grand mais regretté Michel Blanc.
Qu'est-ce que tu fais là?
Il y a un chat caché là-dessous.
Quand je me suis glissé dans cette cache, c'était en 1942, je ne pensais y passer que quelques semaines.
Très bien.
Où est ton arrière-grand-mère?
Elle dort toujours.
Comme ça, elle dort toujours. Ceinture.
Non.
Alors, pas ceinture.
Jésus-Christ dit aux apôtres, suivez-moi, marchez sur l'eau. Sans...
T'es sûr que tu veux pas que je porte?
Non, elle dit que c'est moi qui l'accompagnerai au dessin. Alléluia. Il faut balancer ton bras droit vers l'avant, hein.
C'est très bien d'avoir de l'imagination. Ça permet d'en donner un peu à la vie qui parfois en manque un peu.
Pour le pitch, Christophe, 9 ans, vit les événements de mai 68 planqué chez ses grands-parents dans l'appartement familial à Paris. Entouré de ses oncles et de son arrière-grand-mère, tous bivouac autour d'une mystérieuse cache qui révélera peu après ses secrets. C'est un film poignant et drôle, tiré du livre La Cache de Christophe Boulanski, où on retrouve un parallèle entre la Seconde Guerre mondiale, via les souvenirs du grand Michel Blanc, et les affrontements en mai 68. La relation entre les deux protagonistes est à la fois touchante et on y sent une éducation mutuelle. On y retrouve aussi Liliane Rover qui, après 10% et Family Business, qui est toujours disponible sur Netflix, où elle campe souvent des rôles légèrement en décalage, mais toujours vrais et sincères, un peu comme un Jiminy Cricket dans les séries et dans les films dans lesquels elle est. Bref, c'est un super film à voir, c'est une jolie comédie. Ça risque de nous donner envie de ressortir les vieux vinyles par contre.
Un Britannique a très justement écrit que puisque Dieu ne pouvait être partout...
Est-ce que vous pouvez prévenir mon mari que je pars accoucher?
Pars à l'hôpital!
Il a donc dû inventer les mères.
Je peux le voir.
Il a un pied beau.
Et l'autre, il est pas beau.
C'est une malformation.
Votre enfant est handicapé.
S'attendait pour moi à rien de moins qu'un miracle.
Voilà, on devait rentrer à l'école en septembre.
Son premier jour d'école, il ira tout seul en marchant.
Mon mari n'était pas médecin, mais il était robot.
On va devoir placer Roland en famille d'accueil.
J'ai besoin d'encore un tout petit peu de temps pour vérifier si c'est le grand miracle que vous et moi on attend depuis si longtemps.
Je peux peut-être essayer de vous aider si vous voulez.
Il faut que Roland soit bien concentré sur une seule chose.
Qu'est-ce qu'il aime, Roland?
Tu la mets celle-là, arrête s'il te plaît.
On vous prend tout. Tout ce que vous avez sur Sylvie Vartan.
On poursuit avec Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Lionel Bayet. Lionel Bayet qui signe un film à la fois tendre et caustique où l'intime et le collectif se mêlent dans une exploration des héritages familiales et des quêtes identitaires. On y retrouve un duo qui match avec Leila Bekti et notre Joko national, Jonathan Cohen, qui ne cesse de grimper dans le paysage audiovisuel. On y suit l'histoire au fil des années d'une mère et de son fils, une mère qui donne tout pour sa famille et un fils qui accepte cette présence parfois pesante de sa mère. Un film qui pourrait en première lecture paraître drôle et nous tirer quelques larmes, mais en seconde lecture on y voit une relation hyper toxique. Un fils qui cherche à prendre soin de sa mère vieillissante, mais paradoxalement qui essaie de s'émanciper de cette relation où parfois il est infantilisé malgré son statut social et son âge. On parle de conflits familiales, comme on pourrait en voir au coin de notre rue ou encore au sein de notre propre maison. Un film à voir pour le duo et pour un Jonathan Cohen qui porte ce film par son jeu d'acteur et son adaptation dans un registre où il paraît à l'aise. Mais mon avis perso, ce film ne marquera pas le cinéma. Enfin concrètement, ça reste un divertissement, un film où on n'a pas besoin de réfléchir, un film qu'on va mettre et qu'on va pouvoir regarder mais sans forcément suivre, où on peut faire d'autres choses en même temps. C'est pas du très grand cinéma. Je dis pas qu'il faut pas aller le voir, que c'est pas un film à découvrir. Mais après, voilà, ça reste mon avis personnel et c'est purement subjectif. Hein. On est d'accord là-dessus. Mais ça marche, c'est pas un film qui va marquer.
Nous avons observé la naissance d'une grosse fumerole qui a provoqué une explosion phréatique modeste. On peut dire à l'heure actuelle qu'on est hors de danger.
Ça va ?
Ça caille !
Hier, vous expliquiez à tout le monde que plus rien n'allait se passer. Ce matin, on assiste à la plus forte remontée magmatique depuis 50 ans.
On parle d'un volcan vivant.
Les conditions de vie des déplacés sont particulièrement pénibles.
Papa, on te dit que c'est pas encore le moment de rentrer.
On est vraiment à deux doigts de recommander la levée de l'évacuation.
Pourquoi tu dis ça? Tu leur dis ce qu'ils veulent entendre. C'est pas protéger les gens, ça.
J'ai pas de leçon à recevoir d'un petit thésard qui vit sa première éruption, d'accord?
Madame Reiter, vous semblez inquiète.
Non, non.
Et on terminera avec un drame, avec Magma de Cyprien Vial. Alors, pour le pitch, Katia Reiter dirige l'observatoire volcanologique de la Guadeloupe depuis une dizaine d'années. Elle forme un duo de choc avec Aimé, un jeune Guadeloupéen auquel elle transmet sa passion du métier. Alors qu'elle se prépare pour une nouvelle mission à l'autre bout du monde, la menace d'une éruption majeure de la Soufrière se profile. L'île est aux abois, Katia va devoir assurer la sécurité de la population. Avec Magma, Cyprien Vial nous plonge dans un drame intime et sensoriel où les émotions bouillonnent sous la surface, prêtes à exploser. Un film français catastrophe et malheureusement, on n'est pas forcément très bon dans ce registre-là, dans ce sujet-là. Mais l'aspect psychologique de l'histoire, les méandres des décisions et des non-dits rattrapent le coup. On a malgré tout une synergie assez classique, le sage, enfin la sage, jouée par Marina Foïs, qui reste dans ses bottes, vraiment ancré dans ses connaissances et dans son statut, du genre « ouais, ça fait 10 ans que je fais ce métier, je connais tout », face à un Théo Christine qui est jeune et qui va à l'encontre du cheminement de pensée de son mentor. Pour finalement réussir, c'est plus une randonnée dans cette relation qu'un véritable film catastrophe. Là, on est entièrement d'accord là-dessus. Et finalement, est-ce qu'on y va vraiment pour voir un film catastrophe ? Marina Foïs est vraiment bonne dans ce registre parce qu'on reste dans un film dramatique, parce que depuis Police, ces rôles-là lui vont parfaitement bien. Moi, je trouve qu'en tout cas, c'est des rôles qui lui correspondent énormément et on est bien loin des Robin des Bois. Et Théo Christine, il joue avec une belle justesse sans trop en faire. On sent qu'il est dans le démarrage de sa carrière, même s'il a déjà fait quelques films, mais il est assez juste dans ce qu'il fait. Il grossit pas les traits, toutes les scènes où il s'énerve, etc. C'est vraiment quelque chose qui a l'air d'être hyper naturel. C'est un film qui mérite le déplacement, sans parler des prises de vue hyper soignées, des décors en terre guadeloupéenne. C'est juste sublime par contre. Donc je vous conseille d'aller les voir. C'était mes trois sélections de la semaine en termes de sorties. Bien sûr, il y en a d'autres. Je vous invite à aller checker les sites internet et les réseaux sociaux des différentes salles de cinéma où vous avez l'habitude d'aller. On met en avant les salles locales, les salles associatives, bien évidemment. Je vous laisse aller voir ça. Et puis, n'hésitez pas à partager vos petites pépites cinématographiques sur les réseaux sociaux. Et ne manquez pas, le 31 mars à 14h30, le Celtic accueille le film documentaire Sri Lanka, l'île des dieux et des hommes. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir en duplex sur Radio Ondine, monsieur Nicolas Pellissier, réalisateur de ce documentaire. Nicolas Pellissier, bonjour.
Bonjour.
Merci de m'accorder à moi et aux auditeurs de Plan Séquence quelques minutes. Alors parlez-nous de votre film documentaire.
Bah déjà, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Et bien, écoutez, j'ai réalisé ce film sur le Sri Lanka. Enfin, je l'ai co-réalisé parce que j'étais pas tout seul. Je l'ai fait avec Patrick Moreau, qui lui fait ce métier de présenter des films sur scène depuis plus de 40 ans.
D'accord.
Et on a 40 ans de différence, d'ailleurs.
Ok.
Ce qui fait un peu l'originalité de la chose. Et donc, lui était déjà un amoureux de l'Asie du Sud-Est. Il avait même co-réalisé un film sur le Sri Lanka dans les années 70. Et c'est par ma rencontre avec lui que j'ai été embarqué dans cette aventure, parce que c'est son projet à l'origine. Mais ce qui est original, c'est qu'au départ, nous devions faire ce film sur le thème de l'hydrographie.
D'accord.
Parce que c'est un pays qui a beaucoup de canaux, il y a beaucoup de retenue d'eau, et en fait il voulait l'aborder comme ça. Mais au bout de quelques jours dans le pays, nous est apparu clairement qu'il ne pouvait être autrement que d'aborder le film à travers le prisme de la religion, tellement le pays est religieux.
D'accord.
Et ce qui me fait même penser que c'est peut-être même l'un des pays les plus religieux du monde. Et donc on a abordé le thème a changé courant le tournage dans ce pays.
D'accord.
Et ça s'est fait beaucoup au gré de nos rencontres, mais on savait qu'on allait le visiter du nord au sud et d'est en ouest, puisque c'est une île qui fait 65 000 km² et qui compte à peu près 22 millions d'habitants, soit fait un tiers de la population française. Et donc c'est un pays qu'on fait facilement, qu'on peut visiter facilement, qui est bien desservi au niveau des transports, on peut se loger puisque c'est un pays assez touristique, et en même temps il y a toute cette authenticité que les gens recherchent. Les gens aiment aller à la rencontre de culture, de peuple, et comme c'est un pays en plus qui a une histoire très forte, très marquée, puisqu'il malheureusement ce pays a subi 26 années de guerre civile entre Singalais et Tamouls, donc c'était une guerre interethnique.
Okay.
Plus le tsunami en 2004, c'est un pays qui a beaucoup souffert, et encore plus récemment avec le Covid-19, puisque le gouvernement a tellement mal géré que la population a pris d'assaut le palais gouvernemental et a foutu dehors le président.
Révolte au sein de l'île à cause de ça.
Exactement.
D'accord.
Exactement.
Et vous êtes resté combien de temps sur place ?
Alors, on est resté avec Patrick à environ 3-4 mois sur plusieurs voyages, parce qu'en fait, on a couvert beaucoup de festivités, beaucoup de cérémonies religieuses, notamment ce que l'on appelle des peraera, donc c'est des défilés d'éléphants, d'ailleurs, caparaçonnés ou avec des petites lumières dessus. Donc c'est un défilé très très beau avec des danses candiennes, c'est des danses traditionnelles que l'on va retrouver à Kandy, justement, donc qui est l'une des capitales religieuses, on va dire.
D'accord.
La capitale étant Colombo, du Sri Lanka. Et on a vu une autre peraera, donc encore une grande cérémonie religieuse à Kataragama, donc là qui est vraiment 100% Sri Lankaise. C'est presque 1 million de pèlerins qui se réunissent de plusieurs religions, puisqu'il y a un sanctuaire bouddhiste, parce que je précise que le Sri Lanka est un pays bouddhiste,
D'accord. Majoritairement. J'allais vous demander justement. Ok.
Voilà, c'est ça. Donc c'est entre 65-70% de bouddhistes. Vous avez autour des 18%, 20% d'hindouistes, une dizaine de pourcents de musulmans et 7-8% de chrétiens.
Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment comme certains pays d'Asie, c'est majoritairement des bouddhistes.
Exactement, c'est ça qui fait le sel de l'intérêt du Sri Lanka, puisqu'on est, c'est une île qui est tout à côté de l'Inde, hein. C'est vraiment, ça se touche presque, et donc l'Inde n'étant pas bouddhiste, c'est curieux d'avoir
avec la proximité, que ce soit plus du bouddhisme et pas de l'hindouisme par exemple.
Exactement.
En majorité.
D'autant que les deux populations majoritaires du Sri Lanka, donc les Singalais et les Tamouls, proviennent d'Inde.
D'accord, ouais, c'est étonnant quand même. C'est assez étonnant.
Ouais.
Je pense que c'est justement un sujet que vous devez aborder très certainement dans le documentaire, vu que vous me dites que c'est axé plus sur la religion au sein de cette île.
Ah, tout à fait, surtout qu'on assiste à plusieurs cérémonies religieuses, qu'elles soient bouddhistes, hindouistes, musulmanes ou même chrétiennes. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'on va voir aussi les éléphants, on va parler du thé, de la culture du thé, parce que c'est le pays, c'est l'un des pays majeurs exportateurs de thé, même c'est le meilleur thé au monde, puisque justement qui est fait sans pesticides.
D'accord.
Et voilà, donc d'ailleurs j'en propose au public du thé vert ou du thé noir.
Cool, ça c'est chouette.
Ouais, voilà, donc c'est assez intéressant. Et puis voilà, on va parler aussi de l'histoire, on va parler des spots de surf, parce que ça fait partie des meilleurs spots de surf du monde aussi, le Sri Lanka, côté Arugambe. Donc il y a vraiment, voilà, c'est un pays qu'on peut visiter pour vraiment différentes raisons, que ce soit pour la randonnée, la culture, la religion, le sport. Il y a vraiment tout plein de raisons qui font que ce pays est attractif.
Et je suppose que du fait que la religion majoritaire soit le bouddhisme, il doit y avoir aussi des super temples à voir et historique, avec une grosse histoire, une grosse histoire dessus, comme on peut voir effectivement en Asie, même en Inde en fait, il y a quand même des monuments, enfin des choses magnifiques à voir en termes d'architecture.
Absolument, surtout que le Bouddha il serait venu trois fois. Il y a plusieurs Dagoba, Stupa, donc c'est des temples bouddhistes qui lui sont dédiés avec des reliques. On dit qu'à Kandy, il y aurait une dent du Bouddha, il y aurait une clavicule, enfin plusieurs reliques, hein, donc du Bouddha qui font l'objet de nombreuses cérémonies, notamment avec ces éléphants qui durent plusieurs jours, avec des danses kandiennes. Et dans le film justement, on voit un peu l'envers du décor, on voit un peu tous ces jeunes qui se costument, tous ces musiciens, toute l'organisation qu'il y a autour, et ça fait des séquences absolument magnifiques.
Ah, ça doit être génial d'avoir. Ça va être, ça donne envie en tout cas. J'espère que les auditeurs, ça va leur donner envie de se déplacer jusqu'au cinéma pour aller voir cette projection. Justement, vous parlez que sur l'île, donc on sait que vivre sur une île, c'est une vie qui est particulière, un peu coupée du monde, peu importe la taille de l'île. Est-ce que, oui, vu qu'il y a plusieurs religions sur place, comment se passe justement cette cohabitation religieuse ?
Alors, elle se passe bien. C'est ça qui est surprenant et qu'on démontre dans le film, puisque le film, je vais pas spoiler, mais ça finit sur une grande cérémonie à Kataragama sur plusieurs jours, où il y a toutes ces communautés religieuses qui se réunissent et ça se passe très bien. Il n'y a pas du tout de heurts ou de problèmes. Après, c'est vrai que, comme toutes les sociétés, elles évoluent, la religion évolue, et il y a beaucoup de travailleurs détachés qui vont dans les pays du Golfe arabo-persique.
D'accord.
Et qui en reviennent avec malheureusement une vision un peu plus archaïque de l'islam. Je crois que c'est le wahhabisme, si je dis pas d'erreur, fais pas d'erreur, et ce qui a causé malheureusement en 2019 une succession d'attentats qui a causé la mort de 258 personnes, dont une quarantaine d'enfants quand même, faut quand même le préciser. Donc c'était plutôt les chrétiens qui étaient visés, et même des touristes qui sont morts, puisque je crois que c'est un hôtel. Et donc ce qui fait que on a tendance à penser que les tensions qui étaient autrefois plutôt interethniques entre Singhalais et Tamouls ont tendance à revenir sous le prisme de la religion, mais c'est pas du tout, on va dire, les musulmans qui étaient là, qui étaient des marins, hein, dans ce pays, qui sont installés depuis longtemps. C'est pas du tout l'islam nouveau, on va dire, si je le dis avec des gros guillemets.
Moi, je vois ce que
voilà, et surtout que nous, on voit avoir aussi des soufis, qui est une secte de l'islam, où on assiste à des cérémonies vraiment très particulières, un peu à l'image des derviches, et qui sont très 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 gentils, très accueillants. Donc il y a ça, puis il y a la grande mosquée de Colombo aussi, qu'on voit presque au début du film. Donc il y a vraiment des choses très marquées sur les religions, y compris les temples hindouistes, puisque l'hindouisme, c'est plusieurs milliers de divinités, hein. C'est pas un monothéisme.
C'est vrai.
Donc voilà.
Ok, super. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes pour cet échange.
Avec grand plaisir.
Et donc, on vous retrouve au cinéma Le Celtic de Saint-Main le 31 mars à 14h30. Donc,
oui,
vous serez sur place. Est-ce qu'il y aura des échanges avec le public de prévu ?
Tout à fait, c'est ce que je voulais dire. C'est que l'intérêt de ma présence, c'est surtout l'échange, c'est surtout ça. Donc j'invite vraiment les gens à venir, à poser des questions, à échanger avec moi, même si c'est que ce soit en public ou en privé. D'ailleurs, si les gens n'osent pas trop, parfois ça arrive de poser des questions face à un public, de venir s'adresser à moi en privé, ça sert à ça. Si les gens ont des projets d'aller dans ce pays ou d'autres, parce que j'ai couvert aussi la Thaïlande, de parler de voyages, des anecdotes, de me raconter eux-mêmes leurs expériences. Donc c'est avec toujours un grand plaisir pour moi, donc il ne faut surtout pas hésiter.
On marque une courte pause avec, comme d'hab, Kassem Wapalek et Némir, et on se retrouve juste après pour la Cinémathèque. A tout de suite.
Radio Ondine, 98.7 et 95.2.
Comme d'hab, on va leur mettre la pression, même s'ils n'aiment pas la vie que l'on aime. Chaque fois que j'allume la télévision, j'ai le sentiment, l'impression que l'on gêne. Ah, le journaliste me pose trop de questions, ne comprennent rien aux vies que l'on mène. Comme d'hab, comme d'hab.
Kassem full fire fait des dégâts, rend dingue des gars. Et sans dégainer de gun, les dégueuter comme des gamins. Déconne et déconne, on dégueule et déconne. Mais non, pas d'école et d'école, on picole, on dégueule des canettes. On rigole, on galère, on galope. On n'est pas des galants ni des gens galants. Ça vient de ses bouches, t'écoutes dégueulasse. L'esprit en froid, trop de signes similaires. Je suis comme ces milliers de fils d'ouvriers humiliés.
Gentil garçon timide, l'ami aucune limite. Je milite pour le love, leur comme il me saoule. Ils se moquent de nos gimmicks. Chaque fois qu'ils nous imitent, nous font passer pour des love, pour des fous. Je résiste même si c'est pas facile tous les jours. Trop de larmes ont coulé sur mes joues. Dis-leur qu'on fait pas ça pour les sourds. Oh na na na. Et comme d'hab on va leur mettre la pression, même s'ils n'aiment pas la vie que l'on aime. Chaque fois que j'allume la télévision, j'ai le sentiment, l'impression que l'on gêne. Ah, le journaliste me pose trop de questions, ne comprennent rien aux vies que l'on mène. Comme d'hab, comme d'hab.
Quand un énième anonyme mime Eminem, mais n'aime que les mots démons les moins lumineux, je l'élimine en le nommant l'ennemi de l'âme. Des mots, le monde a mis l'âme et des mondes dans mon art. Un peu trop de monde et mon âme a dû me redemander en mendiant d'y remédier. J'ai crimé dire en trimant dur et prémédite. Un crime odieux, j'ai cru m'aider en cramant des micros. Mon Dieu, ma rime est dure, un diamant brut et sans écrin. J'ai crimé dire et dit que ça craint dur de mieux finir. Se vanter, c'est vite une aventure avant tout. Dans vos textes, évitez d'inventer. Némir en invité, ça va tout, ça va t'es. Souviens-toi, c'est vite. Se vanter c'est vite une aventure avant tout. Dans vos textes évitez d'inventer. Némir en invité, ça va tout, ça va t'es. Souviens-toi c'est vital.
Comme d'hab on va leur mettre la pression, même s'ils n'aiment pas la vie que l'on aime. Chaque fois que j'allume la télévision, j'ai le sentiment, l'impression que l'on gêne. Ah, le journaliste me pose trop de questions, ne comprennent rien aux vies que l'on mène. Comme d'hab, comme d'hab.
Le rap est mort alors on lui a fait sa fête des mères. Enfant de deux mondes, j'ai fui le démon. La foule demande, le fou le démon. Je viens foutre la merde avec des mots, je me moque des modes. Le rap est mort alors on lui a fait sa fête des mères. Enfant de deux mondes, j'ai fui le démon. La foule demande, le fou le démon. Je viens foutre la merde avec des mots, je me moque des modes. Me moque des modes, me moque des modes.
Rien à foutre. Némir, Kassem-moi, Palek, Roliano, Guts, Blanca. Mireille Mafieux, Davida Selouch, Pamela en personne, Mickaël Vendettaz.
La Cinémathèque sur Radio Ondine.
Formidable, c'est formidable.
Mmh.
Aujourd'hui, on parle d'un film qui a mis une claque au monde entier en 1968 et qui continue d'être une référence absolue. On va bien évidemment, et vous l'avez reconnu, parler de 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick.
Allô Carl, est-ce que tu me reçois ? Allô Carl, est-ce que tu me reçois ? Est-ce que tu me reçois, Carl ?
Affirmatif, Dave. Je vous reçois 5 sur 5.
Je te prie d'ouvrir la porte extérieure A.
Je regrette, Dave. Cela m'est malheureusement impossible.
Quand Stanley Kubrick se lance dans l'aventure de 2001, l'Odyssée de l'espace, en 68, il ne se contente pas de nous offrir un film de science-fiction tout classique. Non, il nous propose un voyage à travers l'espace, le temps et même la conscience humaine. Un film où le récit devient secondaire, où la philosophie prend le pas sur l'action et où les monolithes sont aussi mystérieux que le sens profond de l'existence. C'est un peu comme si Kubrick avait pris un trip spatial et nous avait embarqué dedans sans qu'on sache vraiment ce qui se passe. Dès la première séquence, Kubrick nous livre une expérience visuelle mais vraiment inédite. L'introduction sur fond de musique de Richard Strauss, ainsi par les Zarathustra, et ces images de l'aube de l'humanité marquent le début d'une aventure sensorielle. Cette scène où les premiers hommes découvrent le monolithe est un peu comme un réveil brutal après une nuit un peu trop arrosée. C'est le genre de moment où tu te dis « Ok, c'est une œuvre d'art, mais je dois vraiment tout comprendre ». D'un autre côté, il y a la bande-son de 2001 et c'est vraiment un personnage à part entière. Si vous avez déjà écouté « The Blue Danube », après avoir vu le film, vous comprendrez la sensation étrange de flotter dans l'espace à chaque note. Mais pour les puristes, le silence de l'espace est tout aussi saisissant. C'est là que Kubrick y brille. Il te laisse aussi bien suspendu dans l'immensité de l'univers que dans un calme quasi monocale. C'est vraiment un film où il n'y a pas que la beauté de l'image et l'aspect technique de l'image. La bande-son, elle y fait beaucoup. On a toujours dit, et vous pouvez regarder énormément d'interviews de réalisateurs sur plein de grands chefs-d'œuvre. En fait, ils expliquent que le son, la bande originale, ou ce qu'on appelle le sound design, vous savez, tous les petits bruitages, etc., les bruits de pas, le vent qui souffle, les oiseaux qui chantent, est tout aussi important que l'image. En fait, il faut que si on retire l'image, on arrive à comprendre l'ambiance et l'environnement dans lequel on se trouve. Finalement, l'un ne va pas sans l'autre. Et Kubrick, dès 68, même avant, il l'avait largement compris ça. Par rapport au monolithe, c'est le symbole énigmatique et récurrent dans le film. Alors, c'est un peu le vrai MVP du film, hein. Si t'as jamais vu 2001, t'as sûrement déjà vu cette image iconique d'une grande boîte noire dans un décor ultra stylisé. Mais alors, que représente ce monolithe ? Une invitation à une évolution supérieure, une rencontre avec des extraterrestres ou juste une œuvre d'art que Kubrick a laissé traîner pour faire jaser ? Faut savoir que Kubrick ne répond jamais franchement à cette question. En fait, il déteste même qu'on la lui pose. À la place, il préfère laisser le spectateur tirer ses propres conclusions. Pour lui, 2001 est une réflexion sur l'évolution de l'humanité. Comme un bon cliffhanger, il nous laisse suspendus à la fin du film. Bref, si t'as pas compris, bienvenue au club. Ensuite, on va parler de l'intelligence artificielle qui a vraiment une sacrée personnalité. On est vraiment dans les prémices de l'IA. En fait, on est vraiment, si on réfléchit bien, si on regarde beaucoup de séries genre sur Netflix, etc., en fait, on est un peu dans l'univers de Black Mirror, mais genre 40 ans avant, quoi, 50 ans avant, parce qu'il y a HAL 9000. C'est une intelligence artificielle qui finit par péter un câble, littéralement. HAL est probablement le personnage le plus humain du film. Si on veut bien y réfléchir, il parle calmement, toujours poli, mais il a aussi une tendance inquiétante à manipuler les membres de l'équipage. C'est là que le film commence à nous glacer. HAL est en quelque sorte l'ancêtre des IA un peu trop self-conscious. Il a un regard trop humain, une voix trop calme et une envie de tout contrôler. On a juste envie de lui crier « Mais arrête d'être aussi creepy !» Mais HAL, lui, répondra toujours par un « I'm sorry, Dave, I'm afraid I can't do that. » Et en fait, on voit que ce personnage-là, qui n'est pas un vrai personnage dans la finalité, hein, parce que c'est pas un être humain. En fait, il a été repris dans énormément donc, de séries, de films. C'est un peu vraiment le... un peu, vous savez, comme l'image du parrain Corleone, qui a finalement axé tous les personnages mafieux des films à la suite du parrain. Tous les mafieux ont la même posture. HAL 9000, en tant qu'IA, a la... a marqué, a donné la tendance de la posture de ce genre de personnage. Et c'est hyper marquant. Et puis il y a cette fameuse séquence finale où l'on se retrouve dans un voyage au cœur de l'espace et du temps. C'est une expérience visuelle qui fait autant de sens qu'une soirée où t'es un peu trop éméché. T'es pas vraiment sûr de ce qui se passe, mais tu sais que c'est incroyable. Les couleurs psychédéliques, les formes qui se déforment, on n'oublie pas, on est quand même un tout petit peu avant les années 70. Bref, c'est le genre de moment où tu te dis « Ok, j'ai peut-être pris un bad trip, mais en tout cas c'est sublime. » Si tu penses que la fin est floue, ou alors t'as tout compris, Kubrick joue avec nos attentes. Le voyage dans le temps se transforme en une dimension totalement irrationnelle où le non-sens devient un sens en soi, finalement. Alors pour les petites anecdotes du film, Kubrick, ça n'a jamais été un réalisateur dit facile. Pour 2001, il a fallu 4 ans de préparation, ce qui est colossal pour l'époque, on n'oublie pas, on est en 68. Il n'a jamais été un adepte du coup de génie à la dernière minute. Non, lui, c'est plutôt des mois de recherche, de précision, tout en gardant son côté maniaque du contrôle. Faut savoir qu'à cause de ce film-là, vous connaissez la thèse complotiste qui dit que nous n'avons jamais marché sur la Lune. C'est à cause de ce film-là. Parce qu'en fait, Kubrick s'est appuyé sur des scientifiques de la NASA pour que les scènes dans l'espace soient le plus réaliste et proche possible, vraiment. Ce qui fait que tout le monde a dit « Non, mais en fait, l'alunissage avec Neil Armstrong, etc. » En fait, c'est Kubrick qui l'a tourné dans un studio. Et c'est à cause de 2001, l'Odyssée de l'espace. Les scènes de l'alignement des planètes et des étoiles, Kubrick a fait appel donc à des scientifiques pour obtenir la plus grande précision possible. Il a vraiment cherché à ne pas nous raconter n'importe quoi, tout ce qui est au niveau de l'astronomie, en fait. C'est un vrai travail de fond et une vraie fourmi. Hein. Par rapport au design des vaisseaux, on doit remercier le légendaire designer Douglas Trumbull qui a créé des effets spéciaux révolutionnaires pour l'époque. Trumbull a même inventé des techniques spéciales pour les effets d'apesanteur qui sont encore aujourd'hui, c'est devenu des classiques. Il faut savoir que la majorité des films de l'époque, on n'avait pas de CGI ou d'IA ou d'appui numérique dans les effets spéciaux. C'était des maquettes, c'était vraiment, il y avait un gros travail de FX. Comme par exemple dans les films Star Wars, qui a un gros travail d'effets spéciaux. Il faut savoir que tous ces films-là, de cette période-là, entre 65 et 80, dans ces eaux-là en fait, il faut savoir c'est vraiment ce qui a mis en place les fondements même des effets spéciaux. C'était tout bonnement incroyable, c'était un travail titanesque à cette époque-là, de créer des maquettes, etc. C'était vraiment fou, hein, vraiment fou. Bref, pour la conclusion, un film qui fait réfléchir et qui ne vieillit jamais. 2001, l'Odyssée de l'espace, est un film d'une beauté sidérante, mais il n'est pas à mettre entre toutes les mains. Si tu cherches à te divertir avec un film de science-fiction classique, passe ton chemin. Mais si t'es prêt à embarquer dans un voyage où chaque image mérite une analyse approfondie, alors t'es au bon endroit. C'est un film, tu le regardes pas en one-shot. C'est tu le regardes une fois, et deux, et trois, et quatre. Et à force de le regarder, tu comprends l'essence même du film. C'est un peu comme un Matrix avant l'heure, en fait. Et bien sûr, si tu ressens un malaise dans le vide spatial, t'inquiète, t'es pas le seul. Mais c'est aussi ce qui fait que ce film est un chef-d'œuvre. Il ne te tient pas par la main. Non, il te pousse dans un gouffre sans fin d'interrogations. Et tu n'as plus qu'à réfléchir à ce que 2001 signifie pour toi. Et ça, c'est un trip que seul Kubrick pouvait nous offrir.
Le banger de la semaine, Radio Ondine 98.7 et 95.2.
Cette semaine, on part dans un univers aussi mystérieux que fascinant avec Clock and Key. La série Netflix adaptée des comics cultes de Joe Hill qui, pour le petit détail sympa, n'est autre que le fils de Stephen King. Donc autant vous dire qu'il connaît 2-3 trucs sur les ambiances inquiétantes qui sont intéressantes.
Hé, hey, regardez-moi ça, on y est.
Bienvenue à Key House.
Votre père n'a jamais voulu me raconter sa vie ici. Mes enfants ont besoin d'un toit.
Et il faut que ce soit ce toit-là.
Vous êtes mon écho !
Oui, oui.
L'histoire, pour le pitch, après la mort brutale de leur père, trois enfants Tyler, Kinsey et Bodhi emménagent avec leur mère dans Kay House, une immense demeure familiale, vraiment genre le manoir, mais déjà à première vue quand on le voit c'est déjà horrifique. Donc une grande demeure familiale, pleine de secrets, surtout avec des clés magiques. Ces clés permettent d'accéder à des pouvoirs incroyables, mais elles attirent aussi l'attention d'une entité maléfique qui rôde dans l'ombre. Donc pourquoi est-ce que pour moi c'est un banger ? Alors plusieurs choses, parce que chaque clé a un pouvoir unique. C'est vrai que c'est un vrai plaisir de découvrir leur capacité au fil des épisodes et surtout voir à quel point l'auteur se réinvente constamment en fait à chaque découverte. Parce qu'on pourrait croire que des pouvoirs avec des clés ça pourrait être assez basique et on pourrait très vite tourner en rond, mais pas tant que ça. Et l'ambiance oscille vraiment entre le fantastique et une horreur assez légère. Malgré tout, c'est quand même quelque chose que même par exemple des ados pourraient regarder très facilement. Il n'y a pas de jumpscare par exemple, ou vraiment extrêmement peu. C'est pas de la vraie horreur, c'est vraiment une ambiance qui est plus horrifique et pesante que des scènes d'horreur. C'est vraiment parfait pour les amateurs de mystère. Et parce que moi je trouve que les personnages sont relativement bien écrits. Chaque membre de la fratrie Locke, et ils évoluent différemment face aux événements et on s'attache assez vite à eux finalement. Puis c'est une série qui continue d'évoluer vraiment au fil des années, au fil des saisons. Parce qu'il n'y a pas qu'une saison, je crois qu'il y a 3 ou 4 saisons pour le moment. Et elle continue son développement avec Netflix. Alors c'est vraiment un mix entre Stranger Things et The Hunting of Hill House. Et cette série-là, on en parlera très bientôt parce que ça aussi, c'est un sacré banger pour ceux qui aiment les atmosphères pesantes et un peu horrifiques. Avec une esthétique qui est léchée et une intrigue prenante. Bref, si vous aimez les histoires de maisons hantées pas comme les autres, foncez. Et ça, Lock and Key, c'est mon banger de la semaine. On écoute tout de suite un autre banger, mais cette fois-ci sonore pour moi. Là, c'est vraiment une pépite que j'ai découverte il y a vraiment peu de temps. C'est Mozart District de Art District. On en prend plein les oreilles, on inspire, on expire et on passe ensuite à notre dose spéciale science-fiction. À toutes.
Steady funky samba, bossa nova, flamenco, and afro beat, balkan rumba, country salsa, electro, manouche, hard rock, ragga rap. The bucket slap at the chicken jack, kicking that Nashville country, western expression. I digress, and yes, less R&B, but more rhythm and blues, gospel, preaching the good news, a go-go, grunge and groove, something sweet and smooth like soul, jazz, rock and roll, old school hip hop, strapiano, bebop, alternative, chanson française and pop. Soca, tanga, bongo, banging la musique congolaise, haché pour ho. Batucada, mais que nada. Ese samba que mixto de maracatu y la musique classique. Rock me Amadeus, roll over Beethoven. Rock me Amadeus, roll over Beethoven. Rock me Amadeus, roll over Beethoven. Schubert, Chopin, and LS. Rock me Amadeus, roll over Beethoven. Rock me Amadeus, roll over Beethoven. Rock me Amadeus, roll over Beethoven. Schubert, Chopin, and LS. This song is a list of all of the classics, from Baroque beat to Bach to broken beat, waltz to rock. Recycling the sample, recomposing hip hop, cause an artist never really stop. Being influenced by everything around, all the beauty he ever found in every sound. Words weren't found, but understanding remained a remainder of what's left to do. Lies inside of you, and it's itching to explode inside a moment of creation, a figment of the collective imagination. Rock me Amadeus, roll over Beethoven. Rock me Amadeus, roll over Beethoven. Rock me Amadeus, roll over Beethoven. Schubert, Chopin, and LS. Rock me Amadeus, roll over Beethoven. Rock me Amadeus, roll over Beethoven. Rock me Amadeus, roll over Beethoven. Schubert, Chopin, and LS.
Alors, il est pas terrible ce morceau. Franchement, c'est pour moi, j'ai découvert vraiment il y a très peu de temps et je trouve la prod, elle est géniale. Enfin, ça coule dans les oreilles vulgairement. Bref, aujourd'hui, on passe aux gros doses de la semaine. On plonge dans un genre qui a façonné le cinéma moderne. On parle bien sûr de la science-fiction.
Je dis de la semaine.
Des voyages interstellaires aux dystopies glaçantes, la SF nous questionne sur l'avenir, la technologie et parfois sur nous-mêmes. Mais certains films ont plus marqué que d'autres et ont littéralement redéfini le genre. Voici ceux qui ont changé la donne. Alors là, l'équipe, on va remonter très 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 loin dans le passé parce que là, on remonte en l'an de grâce 1927 avec Metropolis de Fritz Lang, un précurseur de la SF. Impossible de parler de ça sans évoquer vraiment Metropolis. Vous vous rendez compte, le film il a presque 100 ans, c'est un film muet qui a posé les bases visuelles du cyberpunk. Une ville verticale, des élites en haut, des ouvriers en bas, et un robot iconique qui a inspiré C-3PO dans Star Wars. Le film, c'est une claque visuelle, encore aujourd'hui, et sa portée sociale reste ultra actuelle. Ensuite, on passe, et on vient d'en parler juste avant dans cette émission, parce que ça reste un classique qui a façonné ce genre, que j'affectionne, mais au plus haut point. Donc, 2001, l'Odyssée de l'espace. On va pas reparler de ce film-là. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous invite à écouter le replay où on fait un dossier spécial sur ce film. Alors là, on va parler de culture pop, de geek attitude. Moi, c'est une de mes franchises de prédilection. On va parler de Star Wars, bien évidemment. 1977, le premier, un nouvel espoir de George Lucas. Avant Star Wars, la SF, c'était souvent très sérieux et philosophique. Lucas a changé la donne en mêlant space opéra et aventure épique. Résultat, une révolution du blockbuster et un univers qui continue d'enflammer les salles depuis presque 50 ans. Même si, depuis le rachat de Disney, chacun a son avis sur le sujet. On pourrait en débattre, il n'y a pas de problème. Si vous avez envie que je fasse un dossier spécial là-dessus et je vous donne mon avis sur l'avant et l'après, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On poursuit avec un très grand réalisateur, Monsieur Ridley Scott. Blade Runner 1982. Adapté de Philip K. Dick, ce film a imposé l'esthétique cyberpunk au cinéma. Pluie acide, néon, mégalopole tentaculaire. Tout ce qu'on adore dans la SF moderne vient de là. Et puis cette question qui hante encore les fans, Descartes est-il un réplicant ? C'est vraiment un film, si vous y réfléchissez, Blade Runner, il a vraiment inscrit l'esthétique, vous savez, des films futuristes post-apocalyptiques. Vraiment, ça vient de ce film-là. C'est vraiment un film que je vous conseille à voir. C'est une assez grosse claque en termes de SF. C'est vraiment une pépite. Là, maintenant, on va faire un bond dans le temps et un bond un peu mental parce qu'on va parler de Matrix des sœurs Wachowski. 99 pour le premier. On passe vraiment sur un autre niveau. Matrix, il a révolutionné le cinéma d'action et la SF philosophique. Vraiment, c'est tout un travail philosophique finalement. En combinant le kung-fu, le cyberpunk et surtout la réflexion sur la réalité. Ça a marqué une génération et franchement, qui n'a jamais tenté d'éviter une balle en mode bullet time après l'avoir vu ? Ce film a créé des techniques de prise de vue qui sont encore à l'heure actuelle utilisées comme justement l'effet bullet time. Ça vient de là, créé pour ce film. C'est un film qui a redéfini notre vision de la vie numérique et virtuelle. Pour ceux qui l'ont pas vu, ça m'étonnerait quand même. Mais en tout cas, pour les plus jeunes qui peuvent nous écouter, allez voir Matrix. Allez-y, foncez, regardez les trois premiers. Le dernier... Voilà, chacun se fait son avis là-dessus. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque époque, il y a eu vraiment un film phare qui a redéfini la science-fiction. Moi, la question que je vous pose aujourd'hui, quel sera le prochain film qui changera la donne ? Et si vous voulez, on en discute sur les réseaux. Et voilà, comme toute bonne chose, il y a une fin. Donc c'est la fin de séance pour Plan Séquence, une émission qui était bien chargée avec du cinéma, du grand, du culte, du mystère, de la science-fiction à toutes les sauces. Mais je pars pas si vite. Aujourd'hui, je vous fais, comme promis, gagner des places de cinéma grâce à notre partenaire, le cinéma Le Celtic de Saint-Main-le-Grand. Pour participer, c'est extrêmement simple. Rendez-vous sur Insta, sur le compte Radio Ondine, et répondez à la question par DM. Dans quel film Stanley Kubrick a-t-il mis en scène HAL 9000 ? Pour ceux qui ont écouté l'émission depuis le début, la réponse vous l'avez. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous invite à écouter le replay pour répondre à cette question. Et si vous avez la réponse, alors foncez jouer. C'est cadeau, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Et pour plus d'infos, sortez, retrouvez Le Celtic sur Facebook et sur le-celtic.com. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même endroit sur Radio Ondine, bien sûr. Vous allez mettre une croix, enfin je vous invite, vous allez mettre... Très directif. Je vous invite à mettre une croix dans votre calendrier la semaine prochaine, émission spéciale. Comme je vous avais indiqué, il y a quelques jours en arrière, tous les mois, je reçois un invité. Ce mois-ci, on démarre avec Pierre-Alain Mouton, filmmaker, réalisateur de films spécialisés dans le mariage. On va parler ensemble. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Alors que c'est une émission sur les séries et le cinéma. Parce qu'en fait, il a une approche extrêmement cinématographique pardon, dans son travail. Et donc, on va parler de ça, on va parler de ses références, on va participer ensemble aux sorties de la semaine, aux bangers. On discutera de tout ça dans une ambiance hyper chill et décontracte. Donc, je vous invite à vraiment mettre une petite croix. Et on se retrouve mercredi prochain pour ça. Retrouvez-nous aussi en live stream sur radioondine.fr. Sur nos réseaux sociaux, je vous invite à liker les pages sans problème. Je vous laisse avec le titre « Bienvenue dans la secte » du groupe La Secte Phonétique avec un K. D'ici là, prenez soin de vous et comme on dit dans le métier, et coupez !
Donc c'est comme ça, Radio Ondine.
Que tu sois une meuf, que tu sois peace, que tu sois ref, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois athée, que tu sois pieux, que tu sois manchot, que tu sois gaucher, que tu sois blindé ou toujours fauché, que tu sois de spi ou jamais pressé, que tu sois un flic, que tu te sois fait serrer, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois dans les temps
ou toujours en retard,
que tu sois queuse, que tu sois rond, que tu sois chauve, que tu sois blond, que tu sois une caille ou un bobo, que tu sois homo
ou encore puceau,
que tu sois maniaque ou bordélique, que tu sois toujours sobre
ou alcoolique,
que tu sois un nain ou bien une perche, que tu sois de temps ou t'es toujours la pêche, que tu sois timide ou un tchatcheur, que tu sois patron, que tu sois chômeur,
que tu sois sportif ou que tu fumes le bédo, que t'aies fait longues études, que tu sois sans diplôme, que t'aimes être peinard ou que t'aimes faire la fête,
je te souhaite comme on dit la bienvenue dans la secte.
Pour jouer les âmes, prends licencier, rapper, beatboxer toute la journée. Déjouer l'âme, fatalité, devenez adeptes. Si votre vie manque de couleur, si quotidien rime avec douleur, approchez tous, n'ayez pas peur, rentrez dans la secte.
Dans ma secte, pas d'inceste, pas d'insectes, pas de couleuvre à avaler notre aspect intrinsèque, peut-être vous inquiète, mais les couleurs vont cavaler sur les murs de vos tympans. Donc, oyez, oyez, brave, j'envoyais l'étrange contingent de ceux qui hurlent avec les dents. C'est la secte phonétique, hystérique comme à Paris, la nuit brisant le silence, les sirènes de la République. Pas de trip apocalyptique, on ne se plie qu'aux tortures poétiques. Fétichiste amoureux de la langue ou le spark en vent, langoureuse et goulue quand le temps est changeant. En guerre contre la bêtise, contre l'analphabétisme qui paralyse et réprime les énergies créatives. Pas de mythes épiques ni de livres dictant l'art de vivre, mais un disque disponible, accessible à tout esprit libre.
Pour jouer les âmes, prends licencier, rapper, beatboxer toute la journée. Déjouer l'âme, fatalité, devenez adeptes. Si votre vie manque de couleur, si quotidien rime avec douleur, approchez tous, n'ayez pas peur, rentrez dans la secte.
Hippo, hippi, poli, rigolo, empi, poli, a mis du tempo aussi à bile au pipo, colissa, foligère, solitaire, solide, fière. L'adepte de la secte, afin de l'être, il a dû faire preuve de sang-froid durant des épreuves, sans effroi plongé dans ses fleuves pour draguer des piranhas, veuves plus flippantes que fantomas.
il a dû boire toute l'eau d'un lac. Chercher des œufs sur l'île de Pâques. Fermer les yeux face aux cieux dans l'espoir facétieux de recevoir une bise ou une claque. Attraper la jaunisse, la lèpre, la chaude pisse, la peste. Et mater les téléfilms suisses à Budapest. Ainsi à libérer des instincts primaires emmurés dans sa chair sans suer de sang, sincèrement sans se censurer.
Très compétent,
hippocampétant, encore vivant, est enivrant, te délivrant vite. Il fait désormais partie de la secte phonétique. Dites merci pour ce récit de son parcours initiatique.
Pour jouer les âmes, prends du sens, qui rappelle beatboxing toute la journée. Pour jouer l'âme, vandalité, devenez adeptes. Si votre vie manque de couleur, si quotidien rime avec couleur, approchez tous, n'ayez pas peur, rentrez dans la secte. Bum-ba-dum-ba-dum.